Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de la RDPP. Au sommaire de l'actualité de cette semaine, la mort d'une journaliste palestinienne présentée par Ambre, le droit à l'avortement menacé aux États-Unis présenté par Mohamed, et pour finir, l'approche des élections législatives par Laura. Je laisse donc la parole à Ambre.
Merci Loane. Je vais maintenant vous parler du conflit israélo-palestinien et plus particulièrement de la mort d'une journaliste palestinienne. Le conflit israélo-palestinien a débuté il y a bien longtemps, en 1948. Depuis cette année-là, les tirs entre les deux territoires n'ont jamais cessé. Tout d'abord, recontextualisons les raisons de cette guerre. En effet, le territoire palestinien est enclavé dans l'État israélien et réclame son indépendance depuis longtemps déjà. Il inclut de fortes dimensions religieuses qui opposent d'un côté le nationalisme juif, avec l'Israël caractérisé comme un État à majorité juive, et de l'autre le nationalisme arabe-palestinien majoritairement musulman. Tous deux se disputent alors des territoires, notamment Jérusalem qui tient une place centrale dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes et qui est la capitale de l'Israël, ainsi que pour la partie est, la capitale proclamée de la Palestine. En effet, ce mercredi 11 mai, une journaliste palestinienne nommée Shireen Abou Akleh a été tuée d'une balle en pleine tête alors qu'elle effectuait son travail pour la presse vêtue d'un gilet pare-balles sur lequel était inscrit le mot « presse » ainsi qu'un casque de reportage. Cette femme de 51 ans était la correspondante vedette à Jérusalem de la chaîne Gatarit Al Jazeera. Elle a été abattue à Jénine, au nord de la Cisjordanie, lors d'un échange de tirs entre soldats israéliens et miliciens palestiniens. Quelques heures après sa mort tragique, elle devenait déjà un mythe pour le nationalisme palestinien, selon l'Express. L'armée israélienne et les responsables palestiniens se renvoient à la responsabilité de sa mort. Selon Le Monde, seule une enquête indépendante et internationale permettrait d'éviter de nauséabondes manipulations. Des collègues de la journaliste, dont l'un a également été blessé, ont été témoins de la scène et ont immédiatement mis en cause les tirs de soldats israéliens. Les autorités israéliennes ont alors dédouané les militaires en opération, rappelant qu'ils traquaient des militants du Hamas, alors que l'Israël fait face à une vague d'attentats meurtriers perpétrés sur son territoire. Le premier ministre palestinien Mohamed Stayeh a salué, je cite, « une icône du journaliste tuée par les forces d'occupation alors qu'elle remplissait son devoir ». On a alors pu voir, sur des chaînes d'information comme TF1 ou BFM TV, des images choquantes des funérailles de cette femme qui ont eu lieu ce vendredi 13 à Jérusalem, où la police israélienne attaque violemment les personnes qui lui rendaient hommage. Ils sont même allés jusqu'à s'en prendre au porteur du cercueil qui manque de tomber au sol. Un comportement pour le moins violent et irrespectueux sans raison valable. Même l'Amérique, qui soutient d'ordinaire l'Israël, a fait passer un communiqué de presse désapprouvant ce comportement incompris et inapproprié selon eux. D'immenses posters à son effigie trônent alors sur la place Al-Manara, au centre de Ramallah. Les réseaux sociaux regorgent d'hommages et d'appels à la vengeance. Dans les maternités, des bébés nés ces derniers jours portent même son nom. Une histoire pour le moins dramatique et qui fait polémique. C'en est tout pour le conflit israélo-palestinien. Je laisse maintenant la parole à Louane qui va nous parler de l'avortement qui est menacé en Amérique.
Merci Ambre. Une information qui a fait l'effet d'une bombe aux États-Unis, c'est le droit à l'avortement qui est donc menacé dans tout le pays. Depuis quelques semaines, ce droit est menacé par la Cour suprême, la plus haute juridiction des États-Unis. Afin de comprendre cette loi, il faut comprendre le fonctionnement des lois aux États-Unis. Contrairement à la France, les lois américaines sont souvent votées à l'échelle de chaque État. Au-delà de ces lois votées à l'échelle des États, il y a le droit fédéral, dont les lois sont votées à l'échelle nationale et qui valent donc pour tous les États des États-Unis. L'avortement, lui, est garanti aux femmes depuis 1973 grâce à l'arrêt Roe v. Wade qui a été voté à la Cour suprême. Cet arrêt stipule que l'avortement est légal tant que le fœtus n'est pas viable, c'est-à-dire jusqu'à 22 à 24 semaines de grossesse. Ce droit est très important puisqu'il est inscrit dans la Constitution américaine. En ce qui concerne cette menace, la Cour suprême ne compte pas rendre l'avortement illégal dans tous les États-Unis, mais veut enlever ce droit de la Constitution américaine, ce qui veut dire que cela permettrait à chacun des 50 États d'interdire ou alors d'autoriser l'avortement. Cette information provient du média Politico qui s'appuie sur une fuite de documents de travail des juges conservateurs de la Cour suprême qui estime, je cite, « le droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la nation ». Selon eux, le peuple américain n'a pas été consulté pour prendre cette décision et que pour conséquent, le droit à l'avortement devrait être décidé par les représentants de chaque État. Aujourd'hui, la Cour suprême est composée de 9 juges, dont 6 juges républicains suivant la politique de Donald Trump. La tendance générale de la Cour suprême est plutôt conservatrice et donc plus proche des idées des États qui limitent le droit à l'avortement. Ces États qui limitent ce droit à l'avortement interdisent par exemple l'avortement avant 24 semaines. 12 États ont aussi interdit l'avortement au-delà de 6 semaines à un stade où la plupart des femmes ignorent même être enceintes. Pour en revenir à la Cour suprême, si les 9 juges de la Cour décidaient à la majorité de revenir sur l'arrêt Roe v. Wade, L'avortement serait donc menacé dans de nombreux États et pourrait devenir illégal dans certains. La décision finale est attendue début juillet d'après le journal Le Monde. Suite à toutes ces révélations, des milliers de manifestants sont descendus ce samedi 14 mai à l'occasion d'une grande journée de mobilisation dans les rues des États-Unis pour défendre ce droit, comme à Washington, New York ou encore Los Angeles. Nous en avons fini avec les attaques contre l'avortement. Nous manifestons aujourd'hui pour le dire haut et fort, pas touche à nos corps, a affirmé samedi dans un tweet Women's March, l'une des organisations à l'origine de cette grande journée d'action. Finalement, une vingtaine d'États conservateurs ont déjà promis de le rendre illégal, certains même en cas de viol ou d'inceste, ce qui forcerait les femmes à voyager plusieurs milliers de kilomètres pour se faire avorter, d'après le média, La Voix du Mort. Laura, peux-tu nous résumer à présent l'engouement autour des élections législatives ?
Merci Louane. En effet, je vais vous parler des élections législatives de 2022. Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Il faut savoir que pour cette occasion, le parti présidentiel La République En Marche devient le parti de la Renaissance, nous informe BFM TV. De plus, pour la première fois, les principaux partis de la gauche décident de créer une alliance. Une alliance qui rassemble la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste, avec pour chef de file Jean-Luc Mélenchon. La NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, marque un virage historique pour la gauche, explique France Bleu. Le parti récemment renommé La Renaissance s'allie aux partis Horizon et Modem pour former la Confédération Ensemble. Deux fois, Éric Zemmour a tendu la main au Rassemblement National pour que les deux partis fassent campagne ensemble. Main tendue également vers le Parti des Républicains. Des propositions balayées par le parti de Marine Le Pen et les Républicains. Le dernier sondage de l'Institut Cluster 17, publié vendredi 13 mai, place l'Alliance des Gauches, la NUP, en tête des intentions du premier tour des législatives. Selon ce sondage, 31% des Français interrogés souhaitent soutenir un des candidats de la NUP au premier tour des législatives, 27% un candidat de l'ensemble, 19% un candidat soutenu par le Rassemblement national, 9,5% un candidat républicain et 5,5% un candidat de Reconquête, nous montre l'internaute.
Merci Laura, c'est tout pour les actualités de la semaine. On se retrouve lundi prochain sur la RDPP pour de nouvelles actualités.